Ça sent bon chez vous.
C'est lundi, c'est ravi.
Et après cette bonne gastronomie lyonnaise, le plat principal de la semaine, c'est aussi l'acte porté contre la rédaction de Charlie Hebdo, dont les locaux ont été incendiés il y a quelques jours. La religion et ses représentations, deux questions traitées par nos deux amis et chroniqueurs, Jeanne et Maxime. Dévorons dès maintenant le compte-rendu de Jeanne, qui est allée voir l'exposition « Icônes de mode » au Musée des Tissus de Lyon. Une icône de mode qui n'est autre que la Vierge Marie.
La Vierge Marie, une icône religieuse, une icône historique, mais aussi une icône de mode. Ça peut paraître surprenant, mais la Vierge Marie est pourtant la première à gérer de l'histoire de la mode. L'exposition Icônes de mode au Musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon rend hommage à la garde-robe de la Vierge dans ses représentations sculpturales, et ce, depuis ses 6 derniers siècles. C'est au XIIe siècle qu'on commence à habiller de vêtements certaines statues réputées miraculeuses. Ce sont les fidèles ou les souverains qui offraient des tissus somptueux aux effigies de la Vierge. Tous les principaux sanctuaires de chrétienté connaissaient ce phénomène. Les inventaires médiévaux révèlent que les effigies de la Vierge possédaient de vraies garde-robes, qu'elles soient exposées sur les autels ou à l'extérieur des églises, sur les façades. Les tissus qui étaient employés pour les réaliser étaient généralement très précieux et les vêtements étaient même souvent doublés de fourrure. Ils étaient offerts par les puissants en signe d'entière dévotion et les reines réalisaient parfois elles-mêmes les broderies qui les rehaussaient. Les statues commencent donc à cette époque à être totalement habillées, et pas seulement couvertes d'un grand chapeau. Certaines statues sont fabriquées spécialement pour être vêtues, un peu comme des poupées, avec des têtes amovibles et même des bras articulés. Il n'existe pas vraiment de règles pour la confection de vêtements, ils sont conçus en fonction des contraintes de l'effigie ou de son type iconographique. Vierge à l'enfant, Vierge de piété, Immaculée ou Madame du Rosaire, Vierge des douleurs ou des grâces. La Révolution française fera disparaître un grand nombre de vestiaires historiques. Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, des critiques s'élevèrent contre cette pratique, en France et en Belgique notamment. On y voyait alors l'expression d'une foi un peu trop populaire. Pourtant, les garde-robes des statues miraculeuses, quand elles ont survécu, conservent des étapes prestigieuses. On découvre donc au Musée des Tissus ces quelques 22 parures, toutes plus somptueuses les unes que les autres. C'est un véritable festival de matières, de couleurs, de motifs. On est très impressionné par la conservation de certaines robes vieilles de 600 ans et pourtant toujours aussi éclatantes de couleurs. Rubans, fleurs, cachemire, dentelles, coton, galons, viscose, rien n'est trop beau pour Marie. Mais aussi pour l'enfant Jésus, dont la robe est toujours assortie à celle de sa mère. On traverse les époques, à travers ces différentes tenues, on passe du style grand siècle au style Napoléon III, passant par la richesse de la Renaissance ou la fantaisie de l'orientalisme. Trois grands couturiers ont aussi fait l'exercice d'habiller Marie à la cathédrale de Toulouse en 2009. Franck Sorbier nous livre ainsi une robe de fête qui révèle toute la symbolique de la Renaissance à travers un travail de broderie exceptionnel. Jean-Michel Brock, lui, offre sa robe au mois de mai, qui rend hommage au printemps, époque à laquelle les fidèles décoraient de couronnes de fleurs la statue de la Vierge. Le printemps est évoqué par une envolée de papillons, eux-mêmes symbolisés par des nœuds. Et enfin, et surtout, Jean-Charles de Castelbajac habille Marie d'une battle dress, une robe camouflage. C'est surprenant, et c'est pourtant dans la continuité de l'iconographie catholique et de la symbolique chrétienne. En effet, le treillis incarne par ses couleurs la terre, mère nourricière, protectrice des hommes. La partie inférieure de la robe, brodée de paillettes, évoque les écailles du serpent foulées aux pieds par l'Immaculée. Tandis que le motif camouflage rappelle la figure du Christ soldat, fréquemment représenté au Moyen-Âge. Ces trois robes sont les grandes surprises de l'exposition, sublimées par une très belle scénographie qui réussit l'exercice périlleux de transmettre à la fois la richesse des vêtements, mais aussi le caractère sacré de l'icône. Marie est spectaculaire, voire théâtrale, dans les robes d'or, d'argent, de perles et de velours. Existent donc les Kate Moss, Lady Gaga et autres hit girls, car quoi qu'il en soit, l'icône suprême de la mode, ça restera Marie. Icône de mode, c'est jusqu'au 25 mars 2012 au Musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon.
Religion et représentation encore et toujours. Et cette polémique parisienne à propos du spectacle sur le concept du visage du Fils de Dieu proposé au Théâtre de la Ville et qui a déclenché les foudres de certains chrétiens. Mais dis-moi voir, Maxime, ces cathos, ils seraient pas devenus un petit peu marteaux?
Dressons la scène.
Il y a environ 10 jours, place du Châtelet à Paris, pas loin de 10 camionnettes de CRS et un cordon d'hommes en armure qui entoure l'entrée du théâtre de la ville. Sur cette même place, une centaine de personnes qui chantent, hurlent des slogans et tentent en vain de passer en force. Impossible de passer le cordon de CRS sans montrer ses billets pour le spectacle de Romeo Castellucci sur le concept du visage de fils de Dieu. Une fois passé le cordon, le chemin de croix commence. Détecteur de métaux, fouille obligatoire, et si vous avez une tête bien catholique, cette fouille est d'autant plus minutieuse. Ce sera le cas de 2 gamins qui partiront avant la fin du spectacle, marmonnant quelques insultes. Mise au vestiaire obligatoire des vestes et sacs, et, enfin, le sésame s'ouvre. Pas loin de 30 flics en civil s'affairent sur les côtés de la scène, prêts à agir à la moindre perturbation. Et perturbation il y aura, puisque bien que je ne fus pas le plus chanceux de ce côté-là, néanmoins une femme a trouvé le moyen de pousser un hurlement strident juste derrière moi, avant de fondre en larmes parce qu'il y avait, prétendument, une souris. Une performance artistique digne des meilleurs comédiens. Je ne vais pas revenir sur la pièce elle-même, si vous lisez la presse, vous en connaissez son contenu, je veux dire son véritable contenu, pas le ramassis de mensonges que véhiculent les protestataires. Ce qui me préoccupe plutôt ici, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, soudainement, se manifeste en France cette vague de contestation des catholiques intégristes. Tout d'abord, le militantisme catholique d'extrême droite connaît aujourd'hui une forte médiatisation, mais il n'est pas fondamentalement nouveau. Par exemple, donc, il y a eu l'incendie du cinéma Saint-Michel à Paris au début des années 90 par la fraternité Saint-Pilis, qui est aujourd'hui très active dans les manifestations. De nombreuses perturbations aux manifestations devant les plannings familiaux, les harcèlements des médecins qui pratiquent l'avortement, les procès aux journaux antichrétiens, donc Charlie Hebdo en tête avec 14 procès, et plus récemment, la destruction de l'œuvre Peace Christ d'Andrés Serrano à Avignon. Donc toutes ces actions sont cohérentes et répondent à des buts précis. La différence aujourd'hui, c'est l'ampleur du phénomène, puisqu'environ 1500 personnes ont répondu présent à l'appel de l'Institut Civitas le samedi 29 novembre à Paris. Donc pourquoi ? Tout d'abord, la confiance affichée par les catholiques les plus extrêmes n'est pas étrangère à leur réintégration par Benoît XVI dans l'Église catholique. Donc c'est le cas de la fraternité Saint-Pilis, qui a été réintégrée en 2009. Réintégration causée par la perte de vitesse générale de la religion catholique. Ensuite, l'activisme de certains islamistes les pousse également à agir pour deux raisons. Les tenants de la théorie du choc des civilisations ont peur de se faire doubler par l'islam. Ensuite, le militantisme intégriste en appelant un autre. Le lien est simple, mais la présence de certains islamistes radicaux, donc le centre Zahra par exemple, qui avait conduit la liste antisioniste avec Dieudonné, dans les manifestations récentes au théâtre de la ville, est assez révélatrice. Et enfin, peut-être le nettoyage idéologique lancé par Marine Le Pen au Front National marginalise un peu plus l'extrême droite catholique. Sans grande figure défendant ouvertement une France catholique forte, les militants sont plus enclins à suivre des formations politiques plus dures.
c'était Clap Your Hands and Say Yeah, Is This Love? Donc une chanson choisie par Victor.
Qui terminerait un succulent repas par un fromage blanc 0%? Sûrement pas la gourmette équipe d'indignés presque parfaits.
Et pour ne pas vous laisser un arrière-goût d'inachevé, nous vous proposons donc un café gourmand, une table ronde culturelle où chacun apporte sa petite sucrerie, sa petite cacahuète, son petit coup de cœur. Musique, film, théâtre, livre, tout petit passé.
Aujourd'hui, Maxime nous parlera de Limonov de Carrère, Léa ira faire un tour du côté de la sociologie américaine, l'exercice du pouvoir fera discuter Julie, Maxime, Victor et Lionel. Quant à moi, je vous lirai un extrait d'un article de sociologie de 1970.
Et pour commencer, non, 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 toujours pas le Goncourt, toujours pas Alexis Génie, mais Maxime, il l'a eu, le Renaudot, c'est à toi.
Soyons honnêtes, les grands prix littéraires en France ne servent qu'à vendre du papier. Depuis bien longtemps, on ne récompense plus la créativité ou l'innovation. Les jurys se contentent plutôt de valider la carrière du bon écrivain contemporain. La remise du prix Renaudot à Emmanuel Carrère pour son ouvrage Limonov est particulièrement représentative de cette dérive, et plus précisément de l'état lamentable de la littérature française. Citions d'abord le sujet du livre de Carrère, Édouard Limonov. Écrivain russe, devenu dans les années 2000 une figure de l'opposition à Poutine, a d'abord connu des débuts flamboyants à Paris dans les années 80, alliant subversion de bon ton et mondanité germano-pratine, dans des ouvrages directs, autobiographiques et, disons-le, plutôt passionnants. Puis, patatras, le héros de Carrère disparaît dans les années 90 pour devenir mercenaire aux côtés des Serbes, ce qui lui vaut, assez logiquement, une excommunication en règle du milieu littéraire français. Le silence qui entoure Limonov est à peine perturbé à l'aube des années 2000 lorsqu'on apprend qu'il est en prison pour tentative de coup d'état au Kazakhstan, à 5, tenez-vous bien, mais cela n'attendrit personne. C'est grâce à Carrère que Limonov est à nouveau sous les projecteurs en septembre 2011, grâce à cet objet mal identifié qu'est son livre, sobrement intitulé Limonov. À la fois retour sur la vie de Limonov, mise en parallèle passionnante de la vie de Carrère et de celle du héros, et court exposé historique sur la Russie post-soviétique. L'ouvrage de Carrère apparaît surtout comme un résumé des œuvres de Limonov, mais, je vous rassure, cette synthèse est bien écrite. Il lui manque l'originalité, mais, comme la majorité des œuvres de Limonov ne sont plus publiées, le lecteur lambda n'y verra que du feu. Tandis que Carrère continue sa carrière d'écrivain bankable, gageons que Limonov sera bientôt adopté au cinéma avec Lugarel dans le rôle de l'écrivain, l'écrivain russe, lui, continue son combat désespéré contre Poutine et espère se présenter en 2012 à l'élection présidentielle. Les retombées financières du prix Renaudot permettront sûrement à Carrère de financer la campagne de Limonov, car, après tout, sans les livres de Limonov, le livre de Carrère n'existerait pas.
Et nous restons dans les livres avec Léa qui nous propose sa chronique littéraire.
Oui, une chronique littéraire pour raconter l'histoire d'un livre. Eh ben oui. D'un livre, mais plutôt d'une immersion. Alors l'immersion, c'est un peu la tendance du moment dans le monde de l'écriture. Des journalistes, des écrivains s'immergent dans un milieu, se plongent dans un univers inconnu, vivent pendant un certain temps à la manière d'eux, puis racontent ce qu'ils ont vécu. En France, aux États-Unis et partout ailleurs, c'est un peu la technique de l'acteur studio appliquée à la littérature. Le concept de l'immersion, part du principe que l'on ne peut décrire, analyser et dévoiler que ce que l'on a vécu. C'est un genre très en vogue, même s'il n'est pas franchement récent. On se souvient notamment du gonzo journalisme initié par Hunter Thompson dans les années 60, qui avait poussé le journaliste, à intégrer les motards de Hells Angels. Mais ces 10 dernières années ont vu un retour en force du journalisme d'immersion, intégrant le tournant américain de la non-fiction. Ainsi, le New Jack de Ted Conover en 2001 avait plongé les lecteurs avides de réel dans l'univers carcéral américain. Après ce bref propos introductif, revenons-en au sujet de cette chronique, l'immersion. Et pourquoi faire ? Le succès littéraire qu'avait représenté la publication du Quai de Ouistreham de Florence Aubenas avait suscité quelques critiques sceptiques, que je rejoins, sur l'intérêt de ce type d'exercice. Le projet de Florence Aubenas, certes louable, de vivre la précarité pour pouvoir mieux la raconter, péchait selon moi par condescendance. Ce n'est pas tant la posture de Florence Aubenas qui, dans son travail d'enquête, semble sincèrement vouloir vivre pour décrire un quotidien difficile. Ce qui m'avait choqué à l'époque, et me choque toujours, c'est la façon dont on avait découvert la précarité grâce au livre de Florence Aubenas, un peu comme on découvre qu'il y a des SDF en France chaque hiver. Le problème du concept de l'immersion, dans ce cas-là, c'est que c'est un aveu d'échec du journalisme. C'est un échec parce que dire que l'on est obligé de vivre la précarité pour pouvoir la raconter, C'est dire aux millions de personnes en France, dont c'est le quotidien, que les journalistes sont trop éloignés de leurs préoccupations pour pouvoir se contenter d'un travail classique d'enquête. Je ne parle même pas des simulacres d'immersion qui font sortir des intellectualo-parisiano-bobos de leur bulle intellectuelle à la recherche de sensations fortes de la vraie vie. Allez-y. Allez, allez, si, je vais vous en parler quand même. Le dernier livre de Joyce Sorman intitulé « Paris, gare du Nord » aux éditions Gallimard est un exemple parfait de cette condescendance. Un petit livre publié à l'occasion du festival Paris en toutes lettres au printemps. L'auteur a passé une semaine en immersion à la gare du Nord et raconte « Mon Dieu, quelle horreur, la vraie vie des vrais gens ». L'intérêt de ce type de livre pour les gens qui prennent le RER tous les matins ? That's the question. Aucun. Le seul intérêt que l'on peut supposer à de tels ouvrages, c'est peut-être que le seul lectorat de ce livre est précisément composé de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est la gare du Nord, de ce que peuvent vivre les gens qui ne disposent pas d'un duplex rive gauche à Paris et qui se déplacent en taxi. Voilà, bon, un propos certes marxisant pour rappeler que n'est pas Ted Conover et n'est pas Gonzo qui veut, et que l'immersion peut parfois se traduire en une violence symbolique assez angoissante, voire scandaleuse. Justement, et pour terminer mon propos, je voudrais vous conseiller un ouvrage que j'ai découvert cet été. Une immersion réussie, un remarquable travail d'enquête. Il s'agit d'un ouvrage de la journaliste Adrienne Nicole Leblanc, intitulé Random Family, donc pour la version originale, et traduit aux éditions de L'Olivier sous le titre « Les enfants du Bronx ». Adrienne Nicole Leblanc a passé plus de 10 ans sur son roman. 10 ans à se plonger au cœur d'une communauté portoricaine dans le Bronx. Une communauté qu'on observe généralement de loin, avec ses figures locales de la drogue, avec l'argent, avec ses femmes, ses filles, ses mères et ses grands-mères d'à peine 30 ans, ses gamins en dérive, ses dealers désorientés. Au terme de ce remarquable travail dans lequel la journaliste a littéralement investi sa vie, on découvre un quotidien souvent terrifiant de misère, raconté sans misérabilisme, et c'est là la grande réussite de cet ouvrage que je vous conseille très, très, très vivement. Du journalisme d'investigation, en somme. Parce que ce n'est qu'en adoptant cette posture investigatrice que le journaliste, le romancier, peut se défendre de glisser sur la pente dangereuse de la condescendance, du privilégié qui regarde les pauvres gens. Un travail honnête et remarquablement écrit, ça suffit.
Bien là, ma buse, bien là, ma biche.
Ah oui, vous l'assommez un petit coup, là, pour l'entendre.
Et après l'immersion chez les petites gens, il est temps d'aller vers les plus hautes sphères du pouvoir, avec deux films, Les Marges du pouvoir et L'exercice de l'État, qui ont inspiré Julie, Maxime, Lionel et Victor.
Les Marges du pouvoir est un film américain réalisé par Georges Clooney. L'exercice de l'État est un film français réalisé par Pierre Scheller. Tous les deux parlent des métiers du politique. Et à vrai dire, je suis plus branchée réflexion politique que critique de cinéma. Donc si j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de ces films, et si on va en discuter, c'est plutôt parce qu'ils m'ont pas mal fait réfléchir sur ce qu'est vraiment, finalement, un film politique. A priori, ces deux films sont des films politiques puisqu'ils nous parlent de la politique. Bref, retour sur les histoires qu'ils racontent. Aux États-Unis, George Clooney nous montre les marches à gravir dans l'épopée d'une campagne des primaires démocrates pour se faire une place à l'ombre du pouvoir. On suit, dans un scénario qui déborde de suspense, les premiers pas d'un jeune chargé de com, prêt à tout pour faire gagner son candidat. On est très proche des protagonistes, des hommes ambitieux et intelligents, mais qui n'ont pas le droit à l'erreur, sous peine de devenir la proie de leurs collègues. Et de plateau télé en sondage, on en arrive grosso modo à cette conclusion un peu décevante, qui est dans le film, je cite, « Dans ce pays, le président a le droit de déclencher des guerres stupides ou de mettre la nation en faillite, mais il n'a pas le droit de sauter les stagiaires. » En France, Pierre Scheller nous plonge au cœur de la vie d'un homme qui exerce une fonction d'État, qui l'incarne. Réalisé avec bien plus de finesse, l'exercice de l'État utilise une très belle esthétique pour dresser le constat ordinaire de l'agonie de l'État en tant qu'organe de pouvoir. À vrai dire, le seul pouvoir qu'il semble rester à l'État, c'est la parole. La parole et le costume. Le costume, il est porté par le ministre des Transports, qui est sans arrêt dépeint dans un flot de paroles ininterrompues. Et quand la parole n'est plus, place aux passions, au corps, à l'ivresse et à l'orgasme, au vomissement et au sang. Certainement, ce film est-il un magnifique objet d'art, incroyablement bien documenté et que j'ai mille fois préféré à celui de Clooney. Mais c'est pas ça que je veux dire. Que veulent nous dire Pierre Scheler et Georges Clooney? Pourquoi s'engagent-ils? Tous deux mettent en scène avant tout la disparition du politique en tant que capacité à agir. Pour cela, ils se focalisent sur les hommes politiques, tout le temps, partout, jusqu'à l'épuisement et jusqu'au dégoût, jusqu'à ce qu'on oublie ce pourquoi ils ont été élus et par qui ils ont été élus. En fait, l'exercice de l'État le fait peut-être de la façon la plus fine et du coup de la plus cruelle façon. Pas directement, non, mais par omission. Omission du peuple, que l'on n'entend pas, que l'on ne voit pas. Et surtout, omission de l'action publique, de cette capacité à changer le réel, qui n'existe pas, elle est hors champ. Le pouvoir de faire quelque chose est réduit à de simples manigances politiciennes, et le pouvoir d'améliorer la vie des citoyens est soumis à l'urgence de la vie politique. Il n'y a plus d'idées, plus d'objectifs, le pouvoir est immoral et c'est tout. Un constat tragique et profondément pessimiste. Pour ma part, je trouve ça formidable de parler de la perversité et de l'ambition frénétique des politiciens. C'est même passionnant de comprendre et de dénoncer tout ça. Mais n'est-ce pas vain d'en parler sans aller au-delà ? Les institutions politiques, les partis comme l'État, ne sont-elles plus du tout des arènes de discussion, d'échanges et de mise en œuvre d'idées, voire d'idéaux ? Ces deux films sur le politique sont malheureusement imprégnés de l'air du temps. Un temps hypermédiatique où la politique se réduit au destin de quelques hommes et où les idées sont reléguées à l'arrière-plan. Et ça, c'est un peu pompeux, mais Bertolt Brecht l'écrivait déjà il y a 60 ans, quand il disait « Ce ne sont pas les convictions de quelqu'un qui importent, ce qui importe, c'est ce que font de lui ses convictions. » Alors, messieurs les scénaristes de films dits politiques, on va plus loin maintenant ?
Eh bien, peut-être qu'on va un peu plus loin dans certains films, puisque je suis allé voir le film Police, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Julie, on a un peu dans ce film la retranscription à l'écran de l'application d'une politique. Dans ce film de Mai Wen, on a quelque chose de vraiment concret puisqu'on assiste au quotidien de la brigade des mineurs de Paris. C'est intéressant de voir que c'est plus ou moins filmé comme un documentaire puisqu'on alterne entre les affaires, donc dans la vie professionnelle des policiers qu'on voit à l'écran et qui sont souvent liés à la pédophilie, donc c'est pas très joyeux. Et d'un autre côté, on voit leurs discussions plus légères à la pause déjeuner ou leurs histoires de collègues. Quand on regarde ce film, on est un peu dans un ascenseur émotionnel, avec d'un côté l'humour vraiment présent, et d'un autre côté la réalité des choses. Il faut remarquer dans ce film que la présence de Joey Starr est une bonne surprise, et il est bien dans son rôle. Il y a d'autres très bons acteurs qui mettent en valeur ce scénario, tels que Marina Foïs ou Karine Viard. On suit donc dans ce film des fonctionnaires, des policiers qui apparaissent comme très humains sans jamais non plus être des super-héros. On a donc un film politique, au sens où il nous montre la situation réelle de quelque chose de public.
D'accord. Julie, toi, est-ce que tu as vu Police ?
Non, j'ai pas vu Police.
D'accord. Donc en fait, c'est moi qui ai vu les deux ? Oui.
Faut que tu parles bien dans ton micro, Lionel.
D'accord, ok.
Sinon, on ne t'entend pas.
Mais regarde, c'est bon ? On m'entend ?
On vient de parler en face, en fait.
Ok. Oui,
donc... oui, car chers auditeurs, nous sommes dans les conditions du direct et donc il n'y a pas de recoupement, il n'y a pas de nous allons réenregistrer. Chers auditeurs, vous êtes au cœur de cette émission avec nous. Lionel, c'est à toi.
Oui, donc de fait, moi j'ai vu Police et les marches du pouvoir, donc on en a déjà un peu discuté avant. Moi j'aurais plutôt dit, par rapport à ce que tu racontais Victor, que Police c'est un film social. Dans le sens, bon, on a la mise en œuvre et c'est surtout l'idée du contact avec la société, alors que les marges du pouvoir, enfin, c'est sûr que quand on regarde par rapport, ça paraît complètement déconnecté de la base. J'aurais pas dit que Marges du pouvoir c'était pas un film sur le politique, mais enfin, j'aurais dit que c'était un film sur l'impuissance du politique, sur l'illusion du pouvoir aussi. Et par contre, il y a un truc qui m'a titillé dans ce que tu disais par rapport à... Alors moi, je n'ai pas vu l'exercice de l'État, mais
ouais.
Tu parles du corps.
Ouais.
Et je trouvais que c'était donc aussi vachement présent dans les marches du pouvoir. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que t'as le jeu politique qui paraît complètement hypocrite. Mais derrière, t'as aussi le jeu de pouvoir qui est sous-jacent. Et notamment le jeu par rapport au corps. Bon, on a que des mâles hétérosexuels qui mènent la danse.
Et, comme dans la vraie vie, finalement.
Oui. Ah, ça, j'en sais rien, mais... Et du coup, il y a une scène, par exemple, dans Les Marges du pouvoir qui est vachement intéressante. C'est la... C'est où on dirait qu'à un moment, le voile se lève, c'est... quand il va voir le gouverneur, donc George Clooney, qui est dans une espèce de
cuisine,
voilà, c'est ça.
Un rendez-vous secret voilà. Entre le chargé de com et le candidat.
Ouais, et ça c'est un moment super intéressant parce qu'il y a à ce moment-là, du coup, il parle directement de la fille que tous les deux ont essayé d'avoir.
De la stagiaire qu'on n'a pas le droit de sauter.
Voilà, et qu'ils ont sauté tous les deux. Et du coup, il en parle, il dit d'elle que c'est une paumée, enfin le gouverneur en tout cas, alors que juste avant, il faisait
son éloge funèbre.
Voilà, c'est ça, son éloge funèbre, ouais. Et du coup, il y a ça, en fait, ça me faisait penser aussi, alors le lien est osé peut-être, mais...
Ose.
Oui, je vais oser, oui.
Oui.
Il y avait Sarkozy qui... Enfin, du coup, Villepin rapportait que Sarkozy...
Oula, attention, on va être censuré.
Ouais, je suis désolé.
Ose, mais quand même doucement.
Non,
doucement, on veut garder notre place.
C'est un propos qui a été tenu. Que Sarkozy disait des jeux de pouvoir, qu'il fallait qu'un mâle dominant dans le groupe. Donc, il y avait... Et là, on avait l'impression, en voyant ce film, que du coup, il y avait deux mâles qui étaient en train de se battre pour leur femelle. Et c'était extrêmement basique par rapport à tout ce que... Ou sinon, George Clooney dit en tant que... gouverneur, quoi.
Ouais, mais justement, c'est ce que je trouve dommage dans ce film, c'est que tout est tourné autour des luttes de pouvoir personnel, des luttes de mâles, notamment autour de cette histoire de stagiaire qui est finalement un peu romanesque et peut-être qu'il y a quelque chose de réel, mais au fond, ça nous porte pas à la réflexion politique. Ça nous porte à la passivité, cette histoire-là, dans le film.
C'est une question impertinente. Est-ce que juste ça n'a pas désoptimisé ton optimisme débordant ?
Ça a complètement désoptimisé mon optimisme débordant, cette histoire de stagiaire. Mais ça a aussi désoptimisé mon intérêt pour le film politique. Je me suis dit, tiens, on va m'apprendre des choses sur la vie politique et je vais avoir envie de réfléchir ou de penser quelque chose ou de m'engager.
Mais je pense aussi que c'est
pas du tout.
Je pense que c'est bien anglo-saxon comme... voilà, de mêler en fait des histoires de... enfin,
mais après,
c'est une frontière qui est différente, quoi.
Après, comme tu disais, ce film Les Marches du Pouvoir, il parle aussi, enfin, sachant qu'il est sorti aux États-Unis, il parle de sujets gauchistes qui pour nous
oui.
sont banals, mais qui pour les Américains le sont peut-être pas. Donc peut-être que ça dépend aussi du public.
Moi j'ai une dernière question. Est-ce que vous dites pas en fait, est-ce que juste l'appellation film politique est pas du tout enfin, n'est pas un film politique, un film qui parle de la politique.
Oui, c'est ça que je voulais dire, ouais.
Oui.
De dire que c'est pas parce qu'un film parle du politique que le film est politique.
Pour moi, le film politique par excellence, par exemple, c'est les Ken Loach.
Ouais.
Ça, c'est du film politique.
On est d'accord.
Bah, moi, je dirais que c'est plutôt, enfin, c'est un film sur le discours politique, en fait,
sur la communication politique.
Sur la communication.
Oui,
politique.
Voilà.
Sur le marketing politique,
oui.
dirais
ouais.
les quelques films.
Mais ils ont été vendus en tant que film politique, et c'était ça l'objet de cette discussion.
Tout à fait, donc une discussion qui va s'arrêter, car oui, chers auditeurs, nous arrivons déjà, et oui, déjà à la fin de cette émission, de cette seconde édition. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à Victor, merci à Julie.
Merci à Lionel, à Maxime et à toi, Léa.
Et merci à toi, Léa. Et nous nous retrouvons donc dans une toute petite quinzaine. Avec toujours Maxime, notre technicien, notre fils prodigue, et toujours plein de chroniqueurs, plein de chroniques et plein de matériaux pour refaire le monde. En attendant, à très bientôt sur les ondes de Brume 90.7. Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Black cold diamond world filled with brave little men. Don't get caught in the trend.